48, progresse de 0,92%. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute, ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, Jean Cocteau, mort il y a 40 ans, le 11 octobre 1963.
Je suis un culte, nul. Je ne connais aucun chiffre, aucune date, aucun nom de fleuve, aucune langue vivante ou morte. Comprenne qui pourra, je suis un mensonge qui dit toujours la vérité. Jean Cocteau.
Dans l'histoire. Jean Cocteau est mort le 11 octobre 1963, quelques heures à peine après Édith Piaf, à laquelle il venait de rendre un dernier hommage à la radio. Avec lui disparaissait une des figures les plus singulières du XXe siècle. À la fois poète, romancier, cinéaste, dramaturge et dessinateur, ce touche-à-tout de génie, en marge de toutes les écoles, a laissé derrière lui la réputation d'un auteur superficiel et mondain. Parce qu'il était inclassable, vivant à l'écart de la politique, de tous les courants littéraires et des modes, y compris celles qu'il avait lancées, Cocteau fut un des créateurs les plus attaqués de son temps. Il en souffrait sans doute, mais à la fin de sa vie, il avait fini par s'y résigner.
« J'ignore pas que je serais moqué, que je serais insulté, que déjà on commence à employer la méthode parisienne » qui discrédite par avance tout ce qui risque de changer les règles du jeu. J'entends dire le film de Cocteau est immontable, des niaiseries, ce genre. Au reste, je ne cherche pas à changer les règles du jeu. Les jeunes cinéastes le savent à merveille et que je me paye à la fin de ma vie le luxe de faire ce qui me plaît. Et au lieu de le donner en exemple, de l'offrir en cadeau à toute une jeunesse qui, depuis un demi-siècle, m'a toujours soutenu contre la sottise. Ma seule recommandation au public sera pour le prier de laisser au vestiaire son bagage intellectuel et ses armes. Ni fleurs, ni couronnes.
Claude Arnaud, bonjour.
Bonjour. Alors,
c'était Jean Cocteau qui est mort donc il y a 40 ans et auquel vous venez de consacrer chez Gallimard une belle et monumentale biographie de près de 900 pages. Jean Cocteau qui disait, on vient de l'entendre, qu'il s'adressait avant tout à la jeunesse, hein, ce qu'il a fait toute sa vie. Est-ce qu'aujourd'hui, 40 ans après sa mort, les jeunes lisent encore Cocteau?
Les jeunes lisent encore Cocteau dans la mesure où les jeunes lisent encore tout court, je veux dire, lisent de la prose qui appartient au passé. Cocteau appartient à un siècle révolu, le XXe siècle. Il est lu absolument, il est lu tout simplement parce qu'il a la chance de jamais, il l'a dit lui-même, il était un cancre, il n'a jamais eu, il a raté deux fois le bac, aucun diplôme, aucune formation. Et du coup, il a la chance de jamais avoir été, si on peut dire, récupéré par l'institution scolaire et encore plus l'institution universitaire. Donc c'est pas un sujet d'agrègue, c'est pas un sujet sur lequel des pauvres écoliers ont planché et c'est pas un auteur qu'ils ont fini par détester. Ils ne le connaissent pas a priori, mais ils le découvrent parce qu'il est très accessible en poche, dans les bibliothèques municipales.
Si on commence par lire quelque chose, quand on ne connaît pas Cocteau, il faut commencer par quoi?
On commence ce par quoi j'ai moi-même commencé, et beaucoup de gens commencent. Ça m'est arrivé à l'âge de 13 ans, je suis tombé sur, alors peut-être c'est un peu plus singulier, sur La difficulté d'être, qui est un texte absolument magnifique, qui est un texte de la fin de sa vie, d'une très grande lucidité, d'une très grande... tristesse aussi très profond, très douloureux sur quelqu'un qui vit mal dans son corps, qui vit mal dans sa peau. Un très beau texte, mais on peut aussi commencer dans une version peut-être plus enjouée et plus générationnelle par les Thomas Lepostor, Les Enfants Terribles, qui sont des livres qui justement décrivent un état que connaît bien l'adolescence.
Oui. Mais c'est à la fois c'est intemporel en même temps. Oui.
Mais en même temps, cet état d'entre-deux de l'adolescence, entre deux personnalités, entre on ne sait pas encore qui on est, on cherche. Et les personnages de Cocteau sont dans cet état-là.
Alors c'est vrai, Claude Arnaud, que Cocteau a été souvent critiqué, d'abord parce qu'il est totalement inclassable. Il faut rappeler quand même, quand il est mort, hein, Bécaud avait écrit une chanson, quand il est mort, le poète, pour tout le monde, c'est, on dit Cocteau, le poète. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit? 7 recueils poétiques, effectivement, mais aussi 4 romans, 7 pièces de théâtre, des milliers de dessins, des sculptures, il a fait 6 films. C'est quand même un éclectisme extraordinaire qui vient de son enfance, en fait, pas tellement de l'école. On a entendu tout à l'heure qu'il n'était pas très bon en classe, et vous l'avez dit.
C'est, je dirais, la conjonction de deux faits, l'éducation et de l'enfance, famille bourgeoise bohème, famille artiste, père qui ne travaille, qui cesse de travailler parce que l'argent, le franc est très stable et donc vit de ses rentes.
Le père qui se suicide.
Qui devient 20 et qui se suicide quand le jeune Cocteau a 9 ans. Mère pianiste, excellente pianiste, grand-père mélomane qui va voir tous les concerts, qui invite chez lui des quatuors à cordes tous les dimanches. Famille fourrée à l'opéra, voilà, qui dessine, tout le monde dessine, chante. Bon, famille douée, mais douée de façon amateur, disons. Cocteau hérite évidemment de cet éclectisme et de ses dons aussi, parce que c'est très bon pianiste, dessinateur merveilleux à l'âge de 9 ans, il chante très bien, il danse merveilleusement, formation de danseur classique. Hein,
mais ce qui l'intéresse, c'est d'abord la poésie. Il écrit des vers un peu de mirliton au début, puis alors le grand choc de sa vie, il dira plus tard que c'est sa deuxième naissance, Claude Arnaud, parce qu'il est né en 1889, mais ça c'est en 1913, il assiste à une représentation de Stravinsky. Ça, ça a été le choc, le grand tournant de sa vie. Oui.
Sacre du printemps,
la
première est donnée en 1913, Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Musique barbare, musique grandiose, tellurique, impressionnante, purement moderne. C'est sans doute un des grands coups de poing de la modernité du début du siècle.
Oui, lui avait une culture classique, des vers plutôt de facture classique, et voilà, il se lance, comme il sera toujours dans l'avant-garde en fait.
Une culture musicale aussi classique ou post-impressionniste, c'est-à-dire à l'époque ça signifie de Debussy, Ravel, il est allé jusque-là, et pas après, et tout d'un coup on voit ce site, ce barbare. Et donc, il comprend que son système de valeurs est périmé et suranné. Effectivement, il se lance, il se livre à l'avant-garde.
Et puis alors après, il y a la guerre qu'il fait comme ambulancier. Et puis une guerre qui va marquer Cocteau, comme d'ailleurs toute la nouvelle génération d'écrivains d'après la Première Guerre mondiale. On écoute Jean Cocteau rappeler, c'était en 1943, ce qu'était la littérature et l'art au lendemain de la Première Guerre mondiale.
Il faut savoir dans quel état se trouvaient les lettres. D'une part, le conformisme le plus morne. De l'autre, l'extraordinaire désordre des tentatives de toutes sortes. Ces tentatives, ces audaces, ces jets de feu, ces flammes d'alcool qui jaillissaient par les moindres fentes et ravageaient tout et se ravageaient entre elles, notre groupe, que dis-je, les groupes étaient innombrables et guerroyaient entre eux. Cubisme, dadaïsme, les ismes poussaient comme herbe folle.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Jean Cocteau.
Et une musique que l'on n'a pas mise par hasard, hein, l'ouverture des Mariés de la Tour Eiffel, qui a été composée par ce qu'on appelait le groupe des six, le groupe dont Cocteau parlait dans cette interview, c'était le groupe des six, mais qui est un groupe de musiciens. Hein, voilà le poète lancé, s'intéressant à la musique aussi.
C'est la musique, donc je l'ai dit, par formation ancienne aussi, parce qu'il a ce projet, et peut-être ce qui va vous aider nos auditeurs à comprendre qui est ce personnage effectivement difficile à ramasser, comme il disait lui-même, c'est qu'il a une ambition très très grande, très jeune, bien au-delà des reproches qu'on a pu faire, de lui faire de superficialité ou de mondanité, une ambition de devenir un artiste total. Alors, je dirais, la Renaissance a rêvé d'un homme total, qui serait à la fois savant et créateur. Léonard de Vinci était peut-être l'illustration la plus remarquable, stratège, architecte, peintre, dessinateur. Cocteau, lui, rêvait après Wagner et son rêve d'un art total qui serait l'opéra, qui intégrerait la chorégraphie, la poésie, l'art dramatique et évidemment la musique, rêve d'être à lui seul tous les arts réunis, excepté l'architecture, art trop stable et trop définitif pour lui.
Alors, il était, donc il y avait ce groupe des six, avec notamment Honegger, Millau, Francis Poulenc, etc. Il avait créé, c'est assez drôle, la Société d'Admiration Mutuelle, une bande de copains, au fond, écrivains, un peu tous les gens, qui s'aimaient bien, qui se rencontraient régulièrement. Mais alors, un grand ennemi, hein, parce que un des groupes dont il a parlé tout à l'heure, c'était les surréalistes et bretons, qui haïssaient Cocteau.
Oui, alors c'est au départ, il y a une compétition littéraire, presque de boutique littéraire. C'est à tous les deux, Breton, André Breton et Jean Cocteau, sont sur les territoires du rêve et de l'inconscient, veulent traduire en actes poétiques ou cinématographiques ou artistiques généralement les découvertes de Freud et de la psychanalyse, et aussi une forme d'héritage venu du symbolisme, qui déjà s'intéressait beaucoup aux rêves et aux puissances de l'au-delà, aux puissances occultes. Hein. Donc il y a vraiment une rivalité très directe. Rivalité aussi pour la succession d'Apollinaire, qui s'était imposée pendant la guerre 14-18 comme vraiment le parrain de référence de l'avant-garde, alors qu'ils étaient nombreux à prétendre à ce titre. Il est mort en 18 de la épidémie de grippe espagnole. Donc rivalité aussi, là aussi, pour le commandement de l'avant-garde. Et troisième chose, je dirais homophobie de Breton, détestation de Breton pour la sexualité de Breton, de Cocteau, qui a duré jusqu'à la mort de Cocteau en 63.
Homosexualité d'ailleurs qui se manifeste avec une rencontre capitale pour Cocteau, qui était Raymond Radiguet, dont Cocteau était en quelque sorte le Pygmalion. C'est vraiment Cocteau qui a enfermé en quelque sorte Radiguet pour qu'il écrive Le Diable au corps.
Oui, Radiguet est un vrai écrivain, incroyablement précoce. À 15 ans, il est déjà publié dans les revues d'avant-garde. Il tutoie Breton, il correspond avec Zara, il connaît Max Jacob, Juan Gris et Brancusi. Mais néanmoins, c'est un adolescent extrêmement brouillon, qui boit assez facilement, qui passe des nuits blanches très volontiers. Et Cocteau le verrouille. Vraiment.
Il se verrouille lui-même, parce que Cocteau lui-même, cette année 23, où va mourir Radiguet, pendant l'été, pendant toute l'année, hein, il écrit notamment Thomas l'Imposteur, il écrit également Plein Champ, Le Grand Écart, une œuvre énorme, puis brusquement, Radiguet meurt, et là, il y a des années terribles pour Cocteau, qui commence à prendre de l'opium, qui est vraiment très drogué à ce moment-là. Il ne s'est pas remis pendant des années de la mort de Radiguet.
Non, c'est une double perte, c'est la perte d'un amoureux qui perd l'être aimé, et c'est la perte aussi d'un écrivain qui avait trouvé en Radiguet une espèce de d'alter ego et presque de pilier littéraire, dans la mesure où après l'usure de l'avant-garde, l'épuisement surtout du mouvement Dada, Cocteau se retrouve en panne et il ne sait plus quoi faire, il ne va pas revenir en arrière, revenir au symbolisme de sa jeune époque proustienne où il adorait à la Noailles et les vers comme ça du symbolisme ou du Parnasse, et donc il ne sait plus quoi faire, et c'est Radiguet qui lui dit soyons néoclassiques, relisons Ronsard, relisons Chénier, relisons Benjamin Constant, relisons Laclos, relisons tous ces gens-là, la grande littérature française.
Enfin, un gros passage à vide, et puis alors, en 1928, je crois, ou 29, c'est donc Les Enfants Terribles, hein, qui a été un énorme succès, c'est le premier grand succès, en fait, de Cocteau, alors qu'il va les multiplier, qui multiplie aussi les pièces de théâtre, et puis, en 1937, Oedipe Roy et Les Chevaliers de la Table Ronde, pour lesquels, justement, en 37, Cocteau engage un jeune acteur de 24 ans, totalement inconnu, Jean Marais qui, 30 ans plus tard, au micro de Roger Vrigny, rappelait la première rencontre avec Cocteau.
J'étais prêt à tout pour pouvoir avoir un rôle.
Oui, et alors quand Cocteau vous annonce qu'il est amoureux de vous, vous répondez, moi aussi. Et vous précisez qu'à vrai dire, c'était pas vrai.
Je mentais. Oui.
Mais ce qui est beau dans l'histoire, c'est que vous le devenez.
Oui.
Vous dites qu'on ne pouvait pas vivre auprès de Cocteau sans
Mais être... je crois, j'ai pas connu d'exemple de gens qui ont vécu près de lui sans l'aimer vraiment profondément, sans l'admirer, sans l'estimer.
Il est un pays où l'on s'aime et où personne n'est méchant, où l'unique et grave problème est de savoir si un poème vaut mieux qu'un chant.
C'était Jean Marais chantant une chanson de Cocteau, Mon Pays, une rencontre qui a été capitale. Ils vont rester l'un près de l'autre pendant 26 ans jusqu'à la mort de Cocteau. Claude Arnaud.
Oui, enfin l'un près de l'autre, disons qu'il y a une période chaude, puis une période plus distante. Ils se séparent, Marais mène sa vie, Cocteau mène la sienne et retrouve un nouveau compagnon. Mais oui, c'est vrai que Marais, qui n'a donc pas tombé amoureux de Cocteau, contrairement à l'inverse.
Ah, au début, il le dit lui-même, il est d'une franchise rare, oui, il dit moi je voulais jouer, hein, de toute façon.
Donc
c'est allé voir Cocteau qui était la vedette du moment.
Un jeune acteur arriviste, pas très doué, quand même on peut le dire, qui comprend qu'il a la chance de sa vie parce que voilà, l'occasion de rencontrer Cocteau, et que Cocteau, là aussi, forme, alors je dirais, autant Radiguet était vraiment un pur écrivain et aurait continué de l'être sans Cocteau, autant Marais a eu besoin vraiment de ce Pygmalion incroyable qu'était Cocteau, qui lui a fait comprendre qu'il ne pourrait pas jouer des rôles trop classiques de répertoire, qu'il devait aller tout de suite vers des choses exceptionnelles, et l'a poussé très vite vers ce dans quoi Marais s'illustrait, qui est le cap et l'épée, disons.
En tout cas, c'est ensemble que Cocteau et Marais, vous le rappelez dans votre livre, Claude Arnaud, vont traverser la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation comme si les Allemands n'étaient pas entrés en France. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, Cocteau semble avoir traversé cette période un peu comme dans une bulle. Hein. En septembre 40, par exemple, il se hâte de rentrer à Paris pour monter sa pièce, Les parents terribles, et il écrit à un ami. Les miracles se produisent partout. Je garde une curiosité vivante de ce Paris de rêve. Alors, Cocteau, en effet, reprend ses activités. Il écrit, il fait jouer ses pièces, se presse aux mondanités du tout Paris allemand, profite même de la loge à la Comédie française d'Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne. Et à partir de mai 42, Cocteau tient son journal, un texte confondant de naïveté notamment. En 42, par exemple, il écrit « L'honneur de la France sera peut-être un jour d'avoir refusé de se battre. » Ou encore, quand les Allemands imposent aux Juifs le port de l'étoile jaune, « L'insigne jaune, je n'ai rencontré personne qui le porte. Moyen-Âge, lépreux, lettre gothique. » Alors Cocteau semble choqué, hein, mais il passe vite à autre chose. Il glisse. « Déjeuner chez Maxime, traverser les Tuileries pleines de roses, j'ai trouvé les deux sujets de film qui me plaisent. » Encore plus étonnant, ce qu'il écrit en janvier 43 sur Hitler, toujours dans l'intimité de son journal quand même. « Hitler, l'homme de paix, est haï. Il a été entraîné dans la guerre qu'il déteste. » En plus grave, Cocteau rédige un hommage, qui cette fois est publié, à Arnaud Brecker, le sculpteur officiel du régime nazi. « Je vous salue, Brecker. Je vous salue de la haute patrie des poètes. Patrie où les patries n'existent pas, sauf dans la mesure où chacun y apporte le trésor du travail national. Parce que dans la haute patrie où nous sommes compatriotes, vous me parlez de la France. » Alors en même temps, Cocteau, l'homosexuel opiumane, est attaqué régulièrement par les journalistes de la collaboration. En 41, par exemple, Lucien Rebattet, dans Je suis partout, écrit à propos d'une de ses pièces, c'est le type même du théâtre d'Averti. Et sur Cocteau lui-même, à 50 ans, l'âge de la pleine maturité pour les vrais hommes, ce clown n'est plus qu'un jocrisse dégénéré. Mais le plus acharné contre Cocteau est Alain Lobreau dans Je suis partout, celui à qui Jean Marais d'ailleurs casse la gueule un soir de juin 41. Alors par exemple, quand est rejouée la pièce de Cocteau Les parents terribles, le spectacle d'ailleurs sera perturbé par les coups de poing et les gaz lacrymogènes lancés par des membres du PPF, eh bien Lobreau écrit de Cocteau « Le voici encore sous les projecteurs, c'est chez lui un besoin maladif d'étaler son vice et sa crotte. » Alors la naïveté de Cocteau est telle qu'en octobre 43, il note dans son journal « La radio anglaise m'accuse de collaborer, la presse franco-allemande m'accuse d'être gaulliste, voilà ce qui arrive aux esprits libres qui refusent de se mêler de politique et n'y comprennent rien. »
Oui, Cocteau se vantait de ne pas avoir lu, je crois, le journal depuis 1917. Comme accablant ces textes, Claude Arnaud, d'une part la violence, on y reviendra, des textes des collaborateurs contre Cocteau, mais surtout la candeur et même l'enthousiasme pour Hitler en pleine guerre alors que la France est occupée et il est protégé par les Allemands en fait. Il est attaqué par les collaborateurs et protégé par les Allemands.
Je veux dire, la pression qu'il subit de la part des nationaux socialistes français est si forte et la haine est quand même, elle est concrète. Vous le disiez, les pièces de Cocteau sont interrompues par des commandos. Le PPF, c'est le parti de Doriot, parti d'extrême droite pro-allemand. Les acteurs se font casser la gueule, dont Serge Reviani, qui est toujours vivant, qui pourrait en parler. Et donc, Cocteau est dénoncé toutes les semaines dans Je suis partout et dans cette presse-là, et qui demande son éviction de la scène nationale française. Donc c'est une menace qui est concrète. Ce n'est pas qu'une mauvaise critique aujourd'hui dans Le Monde ou dans Télérama. C'est plus dangereux. Donc
vous voulez dire que sa complaisance en fait vis-à-vis des Allemands tient au fait qu'il est menacé par les collaborateurs.
Voilà, il vient se faire protéger par les secteurs francophiles des autorités occupantes allemandes. Et il y en a, on le sait, dans l'ambassade d'Otto Abetz, il y a le lieutenant Heller qui a fait parler de lui, qui a laissé des souvenirs. Donc des gens qui évidemment sont tout disposés à aider et à protéger Cocteau contre les nationalistes français qui, eux, sont pro-allemands idéologiquement. C'est le jeu très trouble que mènent aussi les autorités allemandes, car comme toute autorité occupante, elles ont un jeu complexe. Il n'y a pas que le SS venu remplir des trains de déportés. Il y a aussi l'allemand intrigant qui noue des contacts, dont Arnaud Brecker, que Cocteau a connu avant la guerre, qui était un élève de Mayol, donc jeune sculpteur, qui a épousé un des modèles grecs qui posait pour Mayol, et qui est revenu en 40, nouer des contacts. Mais là aussi, amicaux. Il n'est pas question de faire signer à Man Ray, qui a fait plusieurs fois son portrait, à Cocteau ou à d'autres peintres qu'il a vus comme ça, des engagements en faveur du national-socialiste qu'il n'aurait évidemment jamais signé. Il s'agit de retrouver, de renouer des liens amicaux. Et Brecker, très tôt, a donné à Cocteau son téléphone en cas d'ennui. chose dont donc Cocteau a profité quand Marais est allé casser la gueule à Lobro, parce que Lobro est lié à la Gestapo. Lobro dénonce toutes les semaines dans le Suppartout des listes de gens qui finissent une fois sur deux ou sur trois arrêtés, déportés ou interdits parce qu'ils sont d'origine juive et qu'ils ne souhaitaient pas le dire. Donc quand Marais casse la gueule de Lobro, le risque est réel. Et là, Cocteau a très peur et Cocteau appelle Brecker qui sauve la mise de Marais. Et effectivement, ça donne un hommage public de Cocteau à Brecker quand il y a une exposition organisée par le gouvernement Vichy en 42 en hommage à Brecker, qui est sa grande faute sous l'occupation, qui est sa compromission. Mais je veux dire qu'il n'y a pas le fait d'un collaborateur, il faut quand même savoir ce qu'on dit. Un collaborateur politique, c'est quelqu'un qui travaille avec les Allemands, qui souhaite leur présence et leur victoire. Ça n'a jamais été le cas de Cocteau.
Claude Arnaud, il y a aussi l'admiration, on la trouve dans son journal, qui a d'ailleurs été courageusement publié par Gallimard, le journal de Cocteau pendant l'occupation. Il dit, j'admire Hitler. C'est au cours d'un dîner, il dit, ben, c'est un personnage admirable. C'est quand même assez étonnant. En tout cas, c'est confondant de...
Oui. Ça, c'est l'aspect le plus, vous l'avez dit, candide, le plus presque, je dirais, absurde politiquement de Cocteau, que la politique n'intéresse pas, qui n'y connaît rien, ce qui est vrai, qui est complètement inculte d'un point de vue historique, et qui est, dans la phase où Brecker, a sorti Marais d'affaires, est intoxiqué par Brecker, qui est protégé par Hitler comme un mécène, qui a été un mécène fastueux pour Brecker. Et donc, qui intoxique Cocteau pendant que ça dure 15 jours. Hein. Après, c'est fini. Mais pendant 15 jours, vraiment, il croit tout ce que Brecker lui dit. Hitler est un Ferdinand de Médicis.
En tout cas, bon, au moment de la libération et de l'épuration, Cocteau va finalement, on va être assez indulgent avec Cocteau, d'autant plus qu'il se rapproche d'Aragon opportunément à ce moment-là. Et d'ailleurs, il échappe au fond à l'épuration, tant et si bien d'ailleurs qu'en 1940, Cocteau est présent au premier festival de Cannes de l'après-guerre pour y présenter La Belle et la Bête.
Pour trois semaines, Cannes est devenue la capitale du cinéma international. Et le festival, projeté avant-guerre, a rendu à Cannes l'animation des temps heureux.
Jean Cocteau, puisque vous avez la parole, voulez-vous nous parler de La Belle et la Bête? Alors, tout ce que je peux vous dire, que j'ai voulu écrire à l'écran une féerie, que je ne suis pas metteur en scène, que je suis très très fier que les metteurs en scène m'aient accepté parmi eux, et c'est simplement une histoire que je raconte, et je ne cherche pas à faire davantage.
Bon retour, belle. Serez-vous ma femme?
Oh, Mathieu.
Je sais que je suis très horrible.
Je reviendrai au bout d'une semaine. Je me suis trop pour vouloir causer votre mort. Mais vous êtes un animal.
C'était Josette Day et Jean Marais dans La Belle et la Bête, hein, le plus célèbre des six films de Jean Cocteau, dont vous dites, Claude Arnaud, qu'il était un des pères fondateurs du cinéma français. À ce point-là?
Oui, parce qu'il a d'abord, il est le premier écrivain qui fait du cinéma en France, avant Guitry, avant Pagnol, évidemment avant Marguerite Duras ou des gens comme ça. Et il est aussi le premier qui fait du cinéma non narratif, non dramatique, non scénaristique, si on peut dire.
Il en fait depuis 1930, il faut le rappeler. On
voilà, Le Sang d'un Poète date de 1930, ouais. C'est un film expérimental, dernier grand film de la période avant-gardiste, qui fait une cinquantaine de minutes, et qui est un espèce de poème filmé, qui est comme une plongée dans l'inconscient de Cocteau par lui-même, comme un scaphandrier qui plongerait dans sa propre nuit, et qui en ramène des images flottantes, on peut dire. Donc ça a beaucoup impressionné, en particulier tous les cinéastes de la Nouvelle Vague qui l'ont élu, que ce soit Godard ou Truffaut, que ce soit René ou Jacques Demy, comme justement des pères fondateurs d'un cinéma qui se voulait détacher des studios et du scénario et de l'interprétation et des vedettes, disons.
En tout cas, il va en faire six. Après La Belle et la Bête, il y aura encore, je crois, Les Enfants Terribles, hein, pas les parents, mais Les Enfants Terribles mis en film. Je crois qu'il y aura aussi Un Testament d'Orphée, il y aura deux films. Et puis alors, cela dit, à cette époque-là, dans les années 50, c'est plus un Cocteau mondain. Hein, d'ailleurs, c'est celui que l'on retient, qu'on a un peu en mémoire, hein, qui ne rate jamais aucun festival, aucun gala, aucune première, aucun vernissage, et encore moins son élection à l'Académie française en 1956. On dirait que aujourd'hui, c'est quelqu'un de très people dans les années 50. Mais alors que voilà, sa production littéraire, artistique, n'est pas terrible, en fait.
production poétique continue d'être bonne, sa production graphique, le dessinateur faiblit beaucoup, le cinéaste reste très personnel, mais il faiblit aussi, mais le poète reste très bon, je trouve. Et effectivement, on le voit, parce que simplement parce qu'il est trois fois président du jury du Festival de Cannes. Donc le jury du Festival de Cannes, c'est Paris Match, c'est des photos avec des vedettes, Gina Lollobrigida ou des vedettes américaines, donc on le voit beaucoup, élection à l'Académie française aussi, vedette Paris Match. Donc effectivement, on le voit beaucoup par ce biais-là. Cocktail, oui, il en a fait, mais pas tant que ça non plus. C'était pas son métier.
Un cocktail des Cocteau.
Oui, on l'a dit en 1923, c'est une très bonne formule, elle résume pas le personnage.
Ouais. Mais justement, c'est quand même pas sa meilleure période, Claude Arnault, la meilleure période, c'est l'entre-deux-guerres surtout.
La meilleure période, c'est les années, je dirais, tout début des années 20, certainement, c'est la plus extraordinaire, la plus brillante. Mais quand même, c'est quelqu'un de fécond, on peut pas dire que ce soit quelqu'un qui s'arrête net. C'est pas aussi clair, il travaille, il peint, il fait des chapelles. Bon, c'est pas Matisse. C'est pas non plus misérable, c'est pas à détruire.
Sa place, je dis pas dans la littérature, puisqu'il a été partout dans la production littéraire artistique en général au XXe siècle, Claude Arnault.
Place, je pense qu'il méritait en tout cas d'être mis, sinon au centre du XXe siècle, du moins dans une position de révélateur et de baromètre du XXe siècle. C'est quelqu'un qui a vraiment attiré à lui toutes les énergies du siècle, qui a nourri le siècle aussi, qui a traversé toutes les périodes, toutes les esthétiques, qui en a pratiqué pratiquement tous les arts. Donc je dirais, ne serait-ce que comme révélateur et comme baromètre, c'est un personnage fantastique. Je trouve que c'est un grand personnage du XXe siècle.
Et cela jusqu'au bout, hein, jusqu'au dernier jour, où il a su magnifiquement exprimer son amitié, puisqu'il meurt à Milly-la-Forêt le 11 octobre 1963, juste après que la radio ait diffusé le bel hommage qu'il rend à Édith Piaf, dont il vient à peine d'apprendre la mort. Édith Piaf, d'ailleurs, nous parlerons demain. Merci Claude Arnault. On se quitte justement avec ces derniers mots de Jean Cocteau, diffusés à la radio quelques heures avant sa mort et juste après celle d'Édith Piaf.
Édith Piaf s'éteint, consumé par un feu qui lui vaut sa gloire. Seulement, sa voix nous reste, cette grande voix de velours noir, magnifiant ce qu'elle chante. Mais si cette grande voix me reste, c'est hélas une grande amie que je perds.
Ici, Milly-la-Forêt, le corps de Jean Cocteau qui est embaumé, va être dans quelques secondes inhumé, comme il en avait exprimé le désir, dans le petit jardin botanique de la chapelle Saint-Blaise, que l'on vient visiter du monde entier depuis que Jean Cocteau a décoré ses murs. Et ainsi, le prince des poètes sera veillé par l'ange qui ressemble à Jean Marais.
Je rappelle que mon invité Claude Arnault est l'auteur d'une passionnante biographie de Cocteau, donc qui a été publiée chez Gallimard. À lire également Cocteau sur le fil de François Nemer, publié chez Gallimard aussi, mais dans la collection Découverte, un livre beaucoup plus petit, beaucoup moins volumineux. Le théâtre complet de Cocteau, distribué dans la Pléiade, sous la direction de Michel Descodins. Et enfin, Les Belles de Cocteau de Dominique Marny, publié chez Lattès. À voir enfin, depuis le 25 septembre jusqu'au 25 janvier 2004, une exposition sur Jean Cocteau qui se tient au centre Pompidou. C'était 2000 ans d'histoire à la